Chapitre 21. La chanteuse écarta ses ailes, et d'une voix profonde, fit vibrer les notes d'une légende plus ancienne que des mythes pourtant millénaires. Du royaume des morts où ils étaient tapis, vinrent des visiteurs à la beauté glacée, en quête de butin ivre de dévasté, vinrent les trois voleurs de la sorcellerie. Les campanes sonnent trois fois, et voilà la mort aux abois. D'une noble splendeur bien que dissimulée, ils volaient dans le vent, portés par l'étincelle, certains offrant du bois à leur reine nouvelle, tandis que d'autres envahissaient l'obscurité. Les campanes sonnent trois fois, et voilà la mort aux abois. Au fil de l'onde, sur la mer ou les rivières, ils lançaient leur appel, prodiguaient leur étreinte, avec pour leitmotiv une atroce complainte qui résonnait la nuit au cœur des cimetières. Les campanes sonnent trois fois, et voilà la mort aux abois. Ensemble pour danser et seuls pendant la chasse, pour que leur noir désir enfin se satisfasse, ils jetèrent des sorts dont naquit l'entropie, avant d'alimenter de nouveaux incendies. Les campanes sonnent trois fois, et voilà la mort aux abois. Mais un jour vint celui qui fit s'ouvrir les eaux, alors que les cloches trois fois carillonnaient, celui qui sut lancer l'appel bien au-delà des mots, et exiger le prix qu'on ne peut refuser. Les campanes sonnent trois fois, et la mort court vers la montagne. Les trois voleurs alors, désireux qu'ils se calment, se firent séducteurs, amicaux et gracieux. Mais il ne faiblit pas, insensible à leur jeu, les maudit sans pitié et exigea une âme. Les carillons se turent et la montagne, devenue leur tombeau, les étouffa. Sur une ultime note qu'elle tint incroyablement longtemps, la jeune femme conclut son ensorcelante chanson. Aussitôt les invités l'applaudirent à tout rompre. Il s'agissait d'un antique poème de Joseph Ander, et cela suffisait à en faire un chant universellement adoré. Dalton avait un jour consulté de vieux textes pour tenter de comprendre le sens profond de ces vers. En vain. Bien au contraire, il s'était embrouillé l'esprit, car il existait plusieurs versions du texte, toutes plus alambiquées les unes que les autres. Bref, il fallait se résoudre à rester dans l'ignorance, mais continuer à vénérer la chanson puisqu'elle célébrait à l'évidence le mystérieux triomphe d'un des vénérables pères fondateurs du pays. Par respect des traditions, cette mélodie fascinante était interprétée à un moment ou à un autre de toutes les grandes fêtes. Sans savoir pourquoi, Dalton eut l'étrange sentiment que ces vers, ce soir, avaient pour lui une plus grande signification qu'à l'accoutumée. À un moment, il s'était même cru sur le point de percer leur secret, mais il avait vite pensé à autre chose et cette sensation fugace l'avait abandonné. Quand la chanteuse s'inclina pour saluer le pontife, les bras écartés, les longues manches de sa robe frôlèrent le parquet. Le phénomène se reproduisit lorsqu'elle fit une révérence devant la table du ministre, placée à côté de celle du pontife. Soutenue aux quatre coins par des lances beaucoup plus hautes et lourdes que celles des soldats andériens, un imposant pavillon de soie brodé de fils d'or entourait sur trois côtés les deux tables d'honneur. Avec cette configuration, on aurait juré que le ministre et ses invités de marque dînaient sur une scène de théâtre. « Et c'est le cas en un certain sens », pensa Dalton Campbell. La chanteuse alla s'incliner devant chaque table des deux interminables rangées qui s'étendaient jusqu'au bout de la salle à manger. Les manches de sa robe étant couvertes de plumes tachetées de chouette blanche, on avait l'impression, quand elle écartait les bras en chantant, d'admirer une femme ailée directement sortie des légendes où elle puisait l'essentiel de son répertoire. Placée à côté du ministre et de sa femme, qui applaudissait avec conviction, Stein se tapait dans les mains d'un air absent. À l'évidence, il aurait préféré plumer cette colombe-là plutôt que de l'écouter roucouler. Dès que la chanteuse se fut retirée sous une ultime salve d'applaudissements, quatre serviteurs entrèrent par la porte du fond, un imposant plateau sur les épaules. Sur une mer démontée en pâte d'amande, un grand bateau, également en pâte d'amande, déployait fièrement ses voiles en barbe à papa. Une manière spectaculaire d'annoncer que le prochain service proposerait un choix de poisson. Pour celui des viandes rouges, les convives avaient pu admirer, sur un plateau encore plus grand, un cerf en pâte à biscuit, poursuivi par une meute de chiens en sucre occupés à sauter au-dessus d'une haie d'aubépine où se cachait un sanglier en gelée. En toute simplicité, pour annoncer les volailles, on avait exhibé un aigle farci qui survolait une maquette en sucre de Fairfield. Dans la galerie, des trompettes et des tambours jouaient une musique martiale pour saluer le passage d'un service à un autre. Il y en avait déjà eu 5, chacun comptant une dizaine de spécialités. Il en restait donc 7 tout aussi fournies. Au cours des pauses, des musiciens, des jongleurs, des acrobates et des troubadours divertissaient les convives pendant qu'on faisait circuler entre les tables un arbre aux branches lestées de fruits confits. Les plats de viande avaient particulièrement plu à Teresa. Elle avait repris 3 fois du lapreau et goûté à tout le reste, de la biche, du porc, du bœuf et même un ours présenté debout comme s'il était vivant. Devant chaque table, on avait écarté sa fourrure, replacé sur sa carcasse rôtie pour découper de délicieuses tranches de viande devant les yeux ébahis des invités. Lors du service des volailles, en plus des moineaux aphrodisiaques dont le ministre raffolait, il y avait eu du pigeon, de la tourte au cou de cygne, de l'aigle farci et des hérons rôtis dont on avait reconstitué le plumage. Grâce à un ingénieux système de filins, ces oiseaux-là étaient arrivés dans la salle à manger sous la forme d'un vol qui semblait plus vivant que nature. Personne n'était censé manger tout ça. Le choix faramineux visait à plaire aux convives, mais surtout à les impressionner. Une soirée au ministère de la Civilisation devait être mémorable. Pour beaucoup d'invités, surtout les moins huppés, ce banquet deviendrait un souvenir qu'ils évoqueraient toujours des années plus tard. Pendant qu'ils goûtaient les plats, les dîneurs gardaient un œil sur la table où le ministre siégeait avec ses hôtes de marque. Ce soir, il avait convié 2 de ses principaux bailleurs de fonds, mais ce n'était pas eux qu'on regardait à la dérobée. Depuis son arrivée remarquée, avec son allure de barbare et sa cape composée de scalpes humains, l'émissaire de l'ordre impérial était la sensation de la soirée. Et la coqueluche, à en juger par les regards énamourés que lui jetait une multitude de femmes, émoustillés à l'idée d'attirer un tel homme dans leur lit. En digne parangon de civilisation, face à la brute venue de l'ancien monde, Bertrand Chanebourg resplendissait dans son pourpoint rembourré violet sans manches, orné de délicates broderies, de fils d'or et de torsades d'argent. Dessous, il portait une veste courte d'une facture plus simple. Avec ses vêtements, décorés de volants blancs au col, aux poignets et à la taille, il semblait plus musclé qu'il l'était en réalité, un effet volontaire puisqu'il devrait passer la soirée à côté d'un colosse. Avec d'impressionnants galons sur les épaules, des ornements fantaisistes puisqu'il n'était pas militaire, mais comment Stein l'aurait-il su? Son superbe manteau pourpre au col et aux manches ourlées d'hermine achevait de lui donner la prestance requise. Toujours souriant, avec ses yeux brillants donnant immanquablement à son interlocuteur du moment l'impression qu'il ne voyait que lui dans la salle, Bertrand en imposait vraiment. Avec l'aura de pouvoir que lui conférait en plus son titre de ministre de la Civilisation, comment s'étonner des regards admiratifs que lui jetaient la plupart des hommes, et des œillades humides qu'il collectionnait du côté des femmes. Quand il ne regardait pas la table du ministre, les convives tentaient d'observer discrètement celle où avait pris place le pontife, son épouse, ses 3 fils et ses 2 filles. Nul n'aurait osé fixer cet homme-là avec insistance. Après tout, n'était-il pas le représentant du Créateur dans le monde des vivants? Un chef religieux quasiment saint et pas seulement le maître suprême du pays? En Andérite, qu'ils fussent andériens ou haken, des multitudes de gens idolâtraient leur pontife, au point de se rouler sur le sol en gémissant, voire en confessant leurs péchés quand son carrosse passait devant eux. Toujours vif et perspicace malgré ses ennuis de santé, le pontife portait une jaquette bordeaux sur une tunique et des hauts de chausses jaunes brillants. Une longue écharpe de soie multicolore richement brodée reposait sur ses épaules, sans doute pour éviter qu'il attrape froid. Bien entendu, il arborait à chaque doigt des bagues qui étincelaient comme de minuscules étoiles. La tête du vieil homme était sans cesse inclinée entre ses épaules voûtées par l'âge. À croire que le poids du gros médaillon qui pendait sur sa poitrine, un bijou où était gravée une montagne incrustée de diamants, avait fini au fil du temps par déformer son dos et son cou. Et, de fait, des taches de vieillesse presque aussi grosses que ses bagues constellaient ses mains. Le pontife avait enterré 4 épouses. La 5e, qui ne devait pas encore avoir 20 ans, tamponnait tendrement les filets de sauce qui coulaient sur son menton. Même s'ils avaient amené leur conjoint, les fils et les filles du grand homme avaient laissé leur rejeton à la maison. Le Créateur devait en être loué, car les petits-enfants du pontife étaient d'insupportables garnements. Les choses étant ce qu'elles étaient, tout le monde devait se résigner à sourire avec indulgence devant les méfaits de ces petits chéris, capables de dévaster un palais en moins d'une journée. Les plus âgés, certains étant bien plus vieux que leur dernière belle-mère, ne valaient guère mieux, même si leurs exactions étaient d'une toute autre nature. À la droite du ministre, à partir de la position de Dalton Campbell, Dame Hildemara Chanebourg paradait dans une élégante robe plissée couleur argent, au décolleté aussi vertigineux que celui des autres femmes. Lorsqu'elle leva un index, la harpiste placée devant les tables d'honneur, mais en contrebas puisque celle-ci trônait sur une estrade, cessa immédiatement de jouer. La femme du ministre était le véritable maître de cérémonie du domaine. Ou plutôt, elle se plaisait à le croire. Personne n'avait besoin de ses directives pour faire son travail. Mais elle tenait à passer pour la maîtresse des lieux chaque fois qu'une fête somptueuse se déroulait au palais. Incapable de se rendre vraiment utile, elle avait imaginé son petit jeu avec la malheureuse harpiste, tenue de lui obéir au doigt et à l'œil. Grâce à ce subterfuge, les invités repartaient convaincus que Dame Chanebourg tirait avec une admirable discrétion toutes les ficelles de la soirée. La musicienne savait bien entendu quand il convenait d'arrêter de caresser son instrument. Le front en sueur, elle guettait pourtant du début à la fin du banquet le mouvement fatidique de l'index dominateur d'Hildemara. Bien que tout le monde s'extasiât sur sa rayonnante beauté, Dame Chanebourg avait des traits d'une désagréable lourdeur et des membres bien trop épais. Depuis qu'il la connaissait, Dalton la voyait comme une statue de femme, sculptée par un artiste certes enthousiaste, mais dotée d'un minimum de talent. Sûrement pas le genre d'œuvre d'art qu'on avait envie de contempler pendant longtemps. Profitant de sa pause, la harpiste se pencha pour ramasser la coupe de vin posée au pied de sa harpe. Bertrand Chanebourg ne rata pas cette occasion d'avoir un aperçu plongeant sur son décolleté. Histoire qu'il ne manque pas le spectacle, il flanqua un discret coup de coude dans les côtes de Campbell. Dame Chanebourg remarqua le manège de son mari, mais elle resta impassible, comme toujours. Amoureuse du pouvoir de Bertrand, sinon de sa personne, elle avait depuis longtemps accepté d'en payer le prix. En privé, il lui arrivait de le bombarder avec tous les objets qui lui tombaient sous la main, mais jamais à cause de ses escapades extra-conjugales. Non, ce qu'elle ne supportait pas, c'était qu'il lui inflige en public l'ombre d'un traitement indigne de son statut. À dire vrai, elle n'était pas très bien placée pour reprocher ses incartades à Bertrand. Dotée d'un sens très élastique de la fidélité, elle s'éclipsait de temps en temps en compagnie de l'un ou l'autre de ses amants, dont Dalton tenait mentalement la liste avec une scrupuleuse précision. Selon lui, comme les maîtresses de Bertrand, les galants d'Hildemara étaient fascinés par son pouvoir et nourrissaient l'espoir d'en tirer quelques bénéfices. Ignorant ce qui se passait vraiment dans le domaine, la plupart des gens la tenaient pour une épouse aimante et fidèle, une image qu'elle cultivait avec un soin maniaque. Dans sa naïveté, le peuple d'Andérite l'adorait comme si elle était l'équivalent d'une reine. Sur bien des points, elle détenait le véritable pouvoir au ministère de la Civilisation. Habile politicienne, bien informée et déterminée, elle distribuait souvent les ordres dans l'ombre pendant que Bertrand se consacrait à ses galipettes. Se fiant aux compétences de sa femme, il lui laissait la bride sur le cou, sans se soucier des coups de pouce qu'elle donnait à des scélérats ni des désastres politiques qu'elle provoquait. Quelle que fût son opinion personnelle sur l'homme qu'elle avait épousé, Hildemara se consacrait corps et âme à préserver et à renforcer son pouvoir. Car s'il tombait, elle chuterait avec lui. À l'inverse de Bertrand, Dame Chanebourg se saoulait rarement en public et presque personne n'était au courant de ses aventures amoureuses qu'elle menait avec une discrétion remarquable. Dalton n'était pas assez stupide pour la sous-estimer. Cette araignée-là aussi tissait sa toile. Les convives crièrent de surprise quand le marin, caché derrière le bateau en pâte d'amande, se leva d'un bond et, en tapant joyeusement sur le tambourin accroché à sa ceinture, joua sur son fifre une chanson de vieux loup de mer. Comme tout le monde, Teresa éclata de rire et applaudit. Sous la table, elle serra doucement la cuisse de son mari.
Dalton, as-tu imaginé que nous vivrions un jour dans un endroit si merveilleux avec des gens formidables?
Bien sûr. Teresa rit de plus belle et appuya un instant son épaule contre celle de son mari. Campbell ne détourna pas le regard de Claudine, placée à une des premières tables du commun sur la droite. Assis à gauche de l'assistant, Stein se coupa un morceau de viande, le piqua au bout de son couteau et entreprit de le manger comme s'il était assis autour d'un feu de camp. Le regard errant sur l'assemblée, il mâcha la bouche ouverte. À l'évidence, ce n'était pas le genre de fête qu'il appréciait. Les serviteurs entrèrent avec les plateaux de poisson et les posèrent sur les tables adressées pour ajouter les sauces et parachever la découpe. Un peu plus loin, les domestiques privés du pontife s'affairaient à goûter puis apprêter sa nourriture. Pour toutes ces opérations, ils utilisaient les couverts qu'ils avaient apportés, en particulier une kyrielle de couteaux dont chacun servait à une tâche bien précise. Contrairement aux autres invités, après chaque service, le pontife et sa famille avaient droit à de nouvelles assiettes et on changeait aussi leurs couverts. Une tranche de rôti de porc entre le pouce et l'index, le ministre la trempa dans la moutarde puis se pencha pour parler à l'oreille de son assistant. On murmure qu'une certaine dame aurait l'intention de répandre de méchantes calomnies. Vous devriez tenter d'en savoir plus. Sur le plateau qu'il partageait avec Teresa, Dalton préleva délicatement une tranche de poire macérée dans du sirop parfumé aux amandes.
« C'est déjà fait, messire ministre, » répondit Campbell. « La dame n'a plus de mauvaises intentions. »
Avec beaucoup de grâce, Dalton croqua sa tranche de poire.
« Eh bien, bravo dans ce cas, » souffla Bertrand.
Il se pencha en avant, tendit le cou et fit un clin d'œil amical à Teresa. Rayonnante, la jeune femme inclina la tête pour lui rendre son salut.
« Très chère Teresa, » lança Bertrand, « vous ai-je déjà dit que vous étiez divine ce soir? Quelle somptueuse coiffure! On jurerait qu'un esprit du bien me fait l'honneur de m'asseoir à ma table. Si vous n'étiez pas mariée à mon bras droit, c'est avec vous que j'ouvrirais le bal ce soir. »
Le ministre dansait rarement avec quiconque d'autre que sa femme, sauf quand il s'agissait d'honorer l'épouse d'un ambassadeur ou d'un dignitaire de passage.
« Ministre, j'en serais très fière, » répondit Teresa.
Après une brève hésitation, elle ajouta
« Et mon époux aussi, j'en suis sûre. Je ne pourrais pas être entre de meilleures mains sur la piste de danse, et n'importe où ailleurs. »
Malgré son excellente éducation qui lui permettait de rester maîtresse d'elle-même en toutes circonstances, Teresa s'empourpra légèrement. Consciente que tous les regards étaient braqués sur elle parce que le ministre daignait lui adresser la parole, elle joua distraitement avec les rubans dorés qui tenaient ses cheveux. Quand il vit Hildemara foudroyer du regard son époux, Dalton sut qu'il n'avait aucun souci à se faire. Bertrand n'aurait pas l'occasion de presser sa mâle poitrine contre les seins à demi-nu de sa femme. Dame Chanbourg ne tolérerait pas qu'il se livre en public à une telle démonstration de frivolité extra-conjugale. Campbell réorienta la conversation sur le sujet qui le préoccupait.
« Un des notables de Fairfield pourrait se montrer très inquiet à propos de l'affaire dont nous venons de parler. »«
Qu'a-t-il dit ? » demanda Bertrand.
Il savait pertinemment à quel directeur Dalton faisait allusion. Malgré la colère qui brillait dans ses yeux, il eut la sagesse de ne pas citer de nom.
« Rien de spécial, » répondit Dalton. « Mais cet homme ne lâche pas facilement son os. Il pourrait lancer une enquête et exiger des explications. Ceux qui conspirent contre nous seraient trop contents d'avoir un prétexte pour nous attaquer. Nous défendre contre d'absurdes accusations serait une tragique perte de temps. » À l'heure où nous devons nous concentrer sur le salut d'Anderit.
Tout ça est ridicule, dit Bertrand,
assez prudent pour continuer la conversation à mots couverts.
Vous ne pensez pas vraiment, n'est-ce pas, que des personnes mal intentionnées s'opposent à notre œuvre salvatrice?
Des propos que Bertrand pouvait débiter sans y penser, tant il les avait souvent répétés. En public, il convenait d'être habile, au cas où quelque espion doué de pouvoirs magiques se soit mis en tête d'épier des conversations qui n'étaient pas pour toutes les oreilles. Campbell lui-même employait une femme dotée de telles aptitudes.
« Nous nous consacrons à la défense du peuple d'Anderit, » dit Dalton. Mais les séditieux, le plus souvent par cupidité, aimeraient nous empêcher d'aller jusqu'au bout de notre mission.
Sur le plat qu'il partageait avec sa femme, Bertrand prit une tranche d'aile de cygne rôtie et la trempa dans une petite saucière remplie de jus de cuisson.
« Donc, vous pensez que des conspirateurs mijotent quelque chose ?»
N'ayant pas perdu une miette de la conversation, Dame Chanebourg se pencha en avant pour s'adresser directement à Dalton.
« Les subversifs sauteront sur n'importe quelle occasion de détruire l'œuvre de Bertrand. Pour réussir, ils sont prêts à soutenir le premier trublion venu. »
Elle tourna la tête vers le pontife que sa jeune femme faisait manger avec une exquise délicatesse.
« Avec les responsabilités qui nous attendent, il n'est pas question de nous laisser mettre des bâtons dans les roues. »
Bertrand était en tête sur la liste des candidats à la succession. Mais la partie n'était pas gagnée. Une fois nommé, le chef suprême du pays gardait son poste jusqu'à la fin de ses jours. Mais à ce stade, le moindre dérapage pouvait ruiner les chances du ministre. Bien entendu, ses ennemis n'attendaient que ça, et ils ne reculeraient devant rien pour lui savonner la planche. S'il s'asseyait sur le trône, Bertrand ne risquerait plus rien. Jusque-là, la plus grande prudence était de rigueur.
« Dame Chanebourg,
dit Dalton, vous évaluez la situation avec une grande pertinence.
« Et je parie que vous avez un plan à nous proposer,
fit Bertrand avec un petit sourire.
« Exactement, confirma Dalton.
Il baissa le ton à un comportement d'une impolitesse rare en public, mais il y avait urgence et tant pis pour les conventions.
« Je crois qu'il est temps d'inverser radicalement le rapport de force. Ce que j'ai en tête ne reviendra pas seulement à arracher les mauvaises herbes. Cela empêchera la chienlit de repousser. »
En regardant du coin de l'œil la table du pontife, Dalton exposa son plan. Quand il eut terminé, Dame Chanebourg se redressa avec un sourire ravi.
Le projet lui convenait à merveille. Impassible, Bertrand approuva du chef, le regard rivé sur Claudine qui picorait plus qu'elle mangeait. Sans crier gare, Stein passa la lame de son couteau sur la table en taillant la délicate nappe brodée.
« Pourquoi ne me demandez-vous pas de trancher la gorge à tous ces chiens ? »
lança-t-il. Le ministre regarda autour de lui, anxieux de découvrir si quelqu'un d'autre avait entendu cette déclaration incongrue. Il demeura s'empourpra de rage et Thérésa blêmit. De tels propos tenus par un homme qui portait une cape en scalp humain.
Stein avait pourtant été prévenu. Si elles étaient entendues et répétées, ces provocations risquaient d'attirer l'attention sur Anderit. Et si la mère inquisitrice venait enquêter sur les affaires du pays, elle ne renoncerait pas avant d'avoir découvert toute la vérité. Dans ce cas, elle n'hésiterait pas à utiliser son pouvoir pour démissionner de force Bertrand Chanebourg, et sans aucun espoir de retour. Campbell foudroya Stein du regard.
« Une simple plaisanterie !»
dit le colosse avec un sourire qui dévoila ses dents jaunâtres.
« Je me fiche de la puissance de l'armée de Jagang !»
lança le ministre, assez fort pour que tous ceux qui avaient pu entendre Stein captent aussi sa réplique.
« Sauf si nous les invitons chez nous, ce qui n'est pas encore décidé, ces soldats ne pèseront rien face aux Domini d'Urtsch. L'empereur le sait, sinon il ne nous demanderait pas de réfléchir à sa généreuse offre de paix. Je suis sûr, en revanche, qu'il s'indignerait qu'un de ses représentants insulte notre culture et foule aux pieds nos lois. Vous êtes un émissaire de Jagang, venu nous transmettre son point de vue et ses propositions. Rien de plus. « Si besoin est, un autre diplomate pourrait s'acquitter de cette tâche. »
Stein ricana comme si avoir provoqué tant de remous l'amusait.
« Je plaisantais, c'est tout. Chez nous, on aime bien ce genre de blagues. Pour mon peuple, ça ne tire pas à conséquence, croyez-moi. Je voulais détendre un peu l'atmosphère. »« J'espère que vous serez plus inspiré. » « Lorsque le moment viendra de tenir votre discours devant mon peuple, c'est une affaire grave, et les directeurs n'apprécieraient pas du tout votre humour provocateur. »«
Désolé, »
lâcha Stein avec un rire gras.
« Mais Sir Campbell m'a expliqué que les plaisanteries de ce type n'étaient pas de mise dans votre culture. Mais que voulez-vous ? Un barbare reste un barbare, et ma nature profonde a repris le dessus. »
Veuillez excuser cette incartade. Vraiment, je ne pensais pas à mal.
N'en parlons plus dans ce cas,
conclut Bertrand. Il se radossa à son siège et balaya l'assistance du regard.
Le peuple d'Andérite méprise la brutalité, et il n'est pas habitué à des propos, et encore moins à des actes, aussi belliqueux.
Stein inclina poliment la tête.
Il me reste encore à assimiler les us et coutumes exemplaires de votre grande civilisation. J'espère avoir bientôt l'occasion de les étudier à fond. Veuillez me croire.
Cette déclaration conciliante, et pourtant hautement ironique, incita Dalton à réviser son opinion sur Stein. Il ne fallait pas se fier à sa chevelure en bataille. Le cerveau qui se cachait dessous était beaucoup plus ordonné. Dame Schanbourg capta peut-être le double sens de la profession de foi du colosse, mais elle ne le montra pas et afficha de nouveau sa coutumière expression douce amère.
« Nous vous comprenons, émissaire, et nous admirons votre volonté de saisir en profondeur des coutumes qui doivent vous paraître étranges. »
Du bout des doigts, elle poussa la coupe de vin de Stein vers ses énormes mains.
« S'il vous plaît, savourez ce nectar de la vallée de Naref que nous aimons tant. »
Si la femme du ministre était passée à côté du véritable message de Stein, Teresa l'avait pleinement saisi. À l'inverse d'Ildemara, elle fréquentait depuis la fin de son adolescence l'impitoyable cercle des femmes de la bonne société, où les mots, plus que des moyens de communiquer, étaient des armes meurtrières. Et plus on s'élevait sur l'échelle sociale, plus ces lames-là devenaient affûtées. À un certain niveau, il était vital de savoir quand on vous avait blessé et à quel point on saignait. Sinon, la moindre entaille risquait d'avoir, aux yeux des témoins, la largeur et la profondeur d'une plaie mortelle. Ildemara n'avait pas besoin de recourir à cette violence verbale, car le pouvoir brut qu'elle détenait la mettait à l'abri des attaques, et les généraux du pays étaient rarement enclins à se lancer dans des coups d'État.
Alors que Stein vidait son gobelet, Teresa, sans le quitter des yeux, but une délicate gorgée.
« Délicieux !» s'exclama l'émissaire. « C'est même le meilleur vin que j'ai jamais goûté !»
Un tel compliment dans la bouche d'un homme qui a tant voyagé nous va droit au cœur, déclara le ministre.
Stein reposa bruyamment son gobelet sur la table.
J'ai l'estomac plein à présent. Quand pourrais-je parler?
Lorsque les convives auront fini de manger, répondit Bertrand un sourcil levé.
Avec un sourire de carnassier, Stein piqua un autre morceau de viande sur la pointe de son couteau et entreprit de le dévorer.
En mâchant, il soutint sans frémir le regard de toutes les femmes qui le couvaient langoureusement des yeux.